Benjamin Mellmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'allocation d'actifs et des dettes souveraines chez Edmond Rothschild Asset Management. On va parler avec vous de stratégie sur ces marchés financiers. Qu'est-ce que vous regardez, je dirais, en priorité aujourd'hui sur ce qui se passe? On pense à la politique monétaire, forcément, aux banques centrales, mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment? Sur quoi vous êtes vigilant?
Le point que vous avez mentionné, à savoir la politique monétaire et plus précisément la politique monétaire américaine, nous semble très important. Pourquoi ce point est important? C'est que c'est un secret de polichinelle, l'économie américaine va bien, elle va même beaucoup mieux, et là on commence à avoir des vrais signes de reprise, et on sait que la réserve fédérale va remonter ses taux l'an prochain, avec un timing qui lui appartient, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Or c'est vrai que dans le rallye qu'on a connu depuis 2009 maintenant, qui est un long rallye, ce paramètre qui a été la réserve fédérale est généreuse, elle inonde le marché de liquidité, elle gardera les taux bas très longtemps, est en train de changer. Et ce qui nous dérange un petit peu aujourd'hui, c'est quand on regarde ce que price la partie courte de la courbe des taux, on s'aperçoit que la notion de resserrement des taux de la réserve fédérale n'est pas très bien pricé. Et c'est vrai qu'historiquement, ce type de mouvement, surtout après le mouvement qu'on a connu depuis 2009, où ça a été un rallye avec une très faible volatilité, peut chahuter les marchés. Donc c'est vrai que la réserve fédérale, aujourd'hui, est un élément important, un élément pour nous, un facteur de volatilité plus à court terme que de moyen terme, mais c'est quelque chose à surveiller. Évidemment, les autres paramètres que nous surveillons, c'est la dynamique de l'économie mondiale et l'énigme de l'Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on s'aperçoit qu'il y a une Europe non plus à deux vitesses, mais à trois vitesses. Grosso modo, une Europe des pays qui ont réformé, Espagne, Irlande, Portugal, qui vont très bien. Ils partaient de loin parce qu'ils avaient connu une sévère récession, mais ces pays ignorent le ralentissement en cours qui est aujourd'hui en Europe. Vous avez un gros bloc qui pèse lourd, c'est la France et l'Italie, qui est un pays qui est en retard dans les réformes et dans l'amélioration de la compétitivité, qui souffre actuellement. Et puis vous avez l'autre gros poids lourd de l'Europe, c'est l'Allemagne, qui, un peu la surprise, semble beaucoup plus souffrir que ce qu'on imaginait des événements ukrainiens, et qui, depuis l'histoire ukrainienne, semble perdre confiance, tant du côté des industriels, mais également du côté des consommateurs, alors même qu'il y a le plein emploi en Allemagne, et des salaires qui augmentent très sensiblement, pour la première fois depuis bien longtemps.
Donc ça donne vraiment deux zones très, dans des situations très différentes, avec une politique monétaire effectivement qui ne va pas aller dans le même sens. Si on revient sur la partie américaine, est-ce qu'il ne peut pas y avoir justement peut-être une mauvaise surprise pour les investisseurs? On l'a eu par le passé, alors c'est peut-être les vieux boursiers qui sont plus prudents que les autres, mais ça c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que ce côté pilotage, certes on pilote, mais il y a un moment donné où il y a aussi le comportement, la psychologie des investisseurs.
Oui, tout à fait. C'est effectivement cette psychologie qui peut être altérée, notamment par rapport à ce qu'on disait, par rapport au changement de comportement de la réserve fédérale. On sait que la réserve fédérale a communiqué sur des craintes de bulles sur certains segments du marché du crédit aux États-Unis, bulles sur certains segments du marché boursier. Et à partir du moment où une banque centrale donne le signal, et la réserve fédérale nous le dit tous les jours, c'est-à-dire que dans son resserrement, il y a aussi, pour la première fois, la volonté de contenir une bulle. En même temps, c'est très bien qu'une banque centrale qui veut s'attaquer à une bulle, c'est potentiellement dangereux. Et par rapport à la psychologie que vous évoquiez tout à l'heure, ça peut altérer la psychologie, changer effectivement les comportements et créer un peu plus de volatilité. Après tout, la volatilité a été très faible jusqu'ici. Ce ne serait pas complètement choquant qu'on ait un peu plus de volatilité, mais on reste positif sur les actifs risqués. D'une façon générale, un peu moins positif, on a réduit un peu la voilure, dans l'idée qu'on pourrait rentrer prochainement dans une phase un peu plus turbulente, notamment pour les raisons de réserve fédérale, mais également toujours d'inquiétude latente et persistante sur la dynamique de l'économie chinoise, qui reste un autre grand paramètre, une grosse inconnue dans la sphère mondiale.
Est-ce que du côté des entreprises qui sont donc dans cet environnement-là, il y a eu quelque part peut-être pour les investisseurs ont été confortés par finalement les résultats des entreprises, jusqu'à présent en tout cas?
Alors, si vous parlez des États-Unis, oui, où effectivement les résultats ont toujours été en phase. Il faut quand même avoir conscience dans le fait que la croissance des résultats était liée certes à la meilleure croissance qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, mais également à un releveraging des entreprises qui se lancent massivement dans des share buybacks. Donc quelque part, les bénéfices aux États-Unis ont été flattés.
Les rachats d'actions.
Oui, pardon, excusez-moi.
Mais il y a eu beaucoup de rachats d'actions.
Il y a eu beaucoup de rachats d'actions qui ont amélioré de façon un peu faciale l'évolution des earnings per share, donc des bénéfices par action. En revanche, en Europe, on ne peut pas dire qu'on a été surpris désagréablement, mais non plus surpris positivement par les résultats. On est quand même depuis pas mal de temps dans une phase de révision négative d'estimation des résultats. Pour nous, malgré tout, sur l'Europe, on arrive à la fin de cette période-là. Ce qui nous rassure par rapport à la dynamique des profits en Europe, c'est que oui, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur cette économie européenne à trois vitesses dont on parlait tout à l'heure, et de cette économie allemande qui souffre un peu plus. Mais à contrario, si cette économie américaine repart, on parlait de la crainte sur la réserve fédérale, alors il y aura des effets bénéfiques qui attendent sur l'Europe. En général, il y a un retard de 6 à 9 mois l'économie européenne par rapport à l'économie américaine. Après tout, cette économie américaine n'accélère que depuis pas très longtemps.
Alors il y a aussi cet effet, et d'ailleurs certains investisseurs y pensent en ce moment, effet dollar bien sûr par rapport à l'euro. Donc il y a certains investisseurs qui disent finalement des valeurs dollars, se mettre sur des valeurs dollars qui vont profiter de cette appréciation du dollar par rapport à l'euro, c'est aussi un axe d'investissement.
C'est effectivement l'un des thèmes de nos placements, qui vise à, pas toujours, ça dépend évidemment, on raisonne valeur par valeur, mais effectivement à regarder avec plus d'intérêt les valeurs dollars. Il y a une telle divergence en termes des deux grandes banques centrales, Réserve fédérale et BCE, de part et d'autre, que ce ne serait pas étonnant que le dollar s'apprécie davantage et que ces valeurs européennes bénéficient des deux effets à citer, c'est-à-dire finalement d'une amélioration mondiale via les États-Unis et puis de ce renforcement du dollar. C'est indéniablement un thème.
Alors il y a aussi le marché japonais. On sait que quand il y a eu ces changements de politique économique, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont fait finalement surprendre par ce qui s'est passé à l'époque. Là, on a récemment effectivement les sujets sur la hausse de la TVA. Pour l'investisseur sur les marchés japonais, quel type de stratégie est proposé ?
Alors, nous, on aime bien les marchés japonais. Alors, étant donné la volatilité, la spécificité du marché japonais, en toute honnêteté, on ne sera jamais lourd dans nos portefeuilles sur le Japon, mais on pense qu'investir une petite partie de son portefeuille sur les actions japonaises fait sens. Fait sens pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on regarde finalement le résultat de la Abenomics, qui a été salué d'abord, puis un peu décrié par la suite, ce qu'on commence à voir, c'est les premiers résultats. Alors les premiers résultats, c'est que les salaires commencent à repartir au Japon, ça c'est un point qui est important. Et deuxièmement, même si l'économie a du mal à absorber la hausse de la TVA, c'est surtout le consommateur qui n'aime pas du tout, tout ce qui relève de l'investissement des entreprises au Japon, qui est un élément très important pour créer une dynamique auto-entretenue, semble se réveiller. Et ces deux paramètres-là nous rassurent. Alors, vous parlez de la hausse de la TVA. Il y en a eu une cette année, il y en aura une autre l'an prochain. Et ce qui a été très intéressant, ça a été les propos du ministre des Finances cette semaine, qui a précisé que ce serait intelligent d'envisager une coordination entre la Banque du Japon et le gouvernement pour, d'un côté, faire vraiment cette hausse de la TVA et remettre un peu d'ordre dans les finances publiques qui sont dans un état déplorable, mais de l'autre côté, utiliser les capacités de la Banque du Japon, qui peuvent être fortes, voire illimitées, pour contrer les effets négatifs de cet effet de la hausse de la TVA. Et ce qui est vrai, c'est que la baisse du yen a été un élément très très favorable au redressement des marchés japonais. Là, nous faisons la gestion diversifiée. Et ce qui est vrai, c'est que quand nous achetons les actions japonaises, nous couvrons le risque de change parce qu'on est intéressé par la performance de l'indice japonais, pas par l'évolution du yen.
Mot de la fin, peut-être plus rapidement sur la partie émergent. Est-ce qu'il y a des paris sur les pays émergents
Sur les pays émergents, bon, d'une façon générale, sur la classe d'actifs, qui est une grande classe d'actifs et qui relève de beaucoup de diversité, on est neutre aujourd'hui. Alors cette neutralité, elle est liée au fait que quand la Réserve fédérale s'apprête à remonter les taux, c'est jamais bon pour les actifs émergents d'une façon générale. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, on sent que ces actifs sont un peu moins en forme que depuis quelques semaines. Par ailleurs, il y a toujours cette incertitude sur l'économie chinoise, qu'on a du mal nous-mêmes à résoudre, et qui fait qu'objectivement, le risque est plus important. Après, il y a des cas spécifiques. Donc on aime toujours les actions indiennes, par exemple, en dépit du rallye absolument phénoménal qui a eu lieu cette année, parce que si effectivement Modi arrive à faire passer ses réformes, à redresser cette économie indienne, alors il y a encore un potentiel de redressement de cette bourse qui était très déprimée, qui nous semble important. On regarde le Brésil aussi avec beaucoup d'intérêt. Les élections sont pour bientôt, les sondages sont très serrés. Évidemment, il y a un candidat qui serait très en faveur de l'économie de la bourse brésilienne, l'autre en défaveur. Donc c'est toujours dangereux de se positionner sur des résultats politiques. On a vu avec le référendum et que c'est qu'on pouvait vraiment se faire très peur sur ce type de sondage. Mais on regarde le marché brésilien avec, on va dire, un peu plus d'intérêt qu'il y a quelques semaines.
Merci Benjamin Melman d'avoir été avec nous.